Hello, ma captation de ma thérapeute est morte et pratiquement terminée, donc je vais la recevoir bientôt, officiellement fini, fini, finito, tout monté, toute patente, le mix de son, la colle, la couleur, tout va être fait et je vais présenter ça en exclusivité pour les membres Patreon. Ça va être un visionnement privé qui va aussi faire office de levée de fonds parce que le but c'est de réussir à rembourser les coûts de production, tout ce que ça m'a coûté pour faire ça. Donc, si tu veux t'abonner au Patreon, c'est une très bonne période pour ça. De un, en ce moment, il y a énormément d'épisodes à l'avance. T'en as beaucoup, 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 puis avec des super beaux invités, vraiment variés. Fait que je te conseille fortement d'aller regarder ça. Et tu vas avoir accès éventuellement à la captation du show, qui va être exclusive pour le Patreon et que j'ai pas l'intention de la sortir publique pour un bon moment, là. Fait que ça va être vraiment comme si t'as hâte de voir le show, c'est là que ça se passe. Puis ça va m'aider évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup en ces temps difficiles. Donc, je suis vraiment excité. Je vais faire comme un visionnement. Puis après ça, il va y avoir une période de questions. Puis on va jaser ensemble. Ça va être une espèce de beau moment où je vais vous partager mon bébé sur lequel je travaille depuis maintenant un an. En fait, je l'ai tapé le 25 septembre 2020 en pleine pandémie à l'Impérial. Et j'ai fait des pieds et des mains pour réussir à tourner ça et j'ai passé une trentaine d'heures en montage. On a vraiment travaillé super fort, puis je suis vraiment fier du produit que ça donne. Fait que j'espère que vous allez être au rendez-vous. Fait que levée de fonds, visionnement, Patreon, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, bon épisode avec Pierre-Yves McSween, que j'adore et que je pense que vous allez beaucoup aimer. C'est vraiment un très bel épisode. J'aime beaucoup ce gars-là. Fait que bye tout le monde!
On est voisins.
On est voisins, c'est vrai, on est voisins. On était supposé en faire un sur ton balcon.
Ah oui, Kim. T'étais prochain.
Ça n'a pas marché. Eh oui. Pierre-Yves McSween, merci d'être au Carré de Sable. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait longtemps que je t'ai pas jasé.
Ah oui.
Je te vois partout.
On s'était
C'est
vu,
cool.
on s'est croisé la première fois en entrée principale.
Oui, c'est vrai.
Je te connaissais à peine dans ce temps-là. Puis si je t'avais dit, hey, dans une couple d'années, la vie va être ce qu'elle est,
Ouais.
on va chercher nos repères. C'est quand même
Ouais.
spécial, hein? Parce que
C'est fou,
société,
regarde.
autant toi que Louis T, vous avez fait entrée principale quelque temps, vous avez dit, OK, il faut que j'arrête pour m'ouvrir au restant
Du
des
monde.
possibilités professionnelles.
Ouais.
Puis tu dis, j'ai tout bâti mon actif, il faut que je m'en aille vers développer d'autres choses. Puis là, il ferme votre possibilité de faire autre chose pendant un an. T'es comme, mais qu'est-ce que je fais, t'sais?
Ah non, c'est le bordel. Avoir su, j'aurais mieux. Ben en fait, cet argent-là, parce que ça a été mon année la plus payante, entrée
C'est sûr,
principale, là,
c'est sûr, c'est sûr.
mais je m'en suis servi pour financer mon projet le moins payant qui était le carré de sable. Fait que tu sais, ça m'a coûté, je pense, 10 000 piastres pour tout m'équiper. Fait que j'ai
C'était
tout
ton
investi.
épargne.
Ouais, ben c'est ce qui restait. Une fois que j'ai remboursé mes dettes, j'ai payé mes impôts puis tout ça, là.
Ah ouais. Hein, quand
Fait
tu travailles à la TV, t'en as des impôts,
Ah ouais, t'en payes, là. Moi,
hein?
c'est ça, je l'ai fait. Mais toi, en ce moment, t'es tellement occupé, tu dois
Mais.
payer.
Oui, ouais, je paye, puis je vais être derrière avec toi, là, je paye des 6 chiffres d'impôts, là, puis ça fait
Ouais, c'est
partie
ça.
de la vie. Mais je peux te dire que ce qui est surprenant, c'est que en 2020, ça a été quand même une année moins bonne que 2019, même si j'ai gardé la télé puis la radio, parce que tout ce qui était, si tu veux, sur les lignes de côté que le monde ne voit pas trop parce qu'il ne me voit pas publiquement, mais tout ça a arrêté, tu sais. Fait que Joe
OK.
en main, paf, l'horaire a chamboulé, nanana. Moi, ça va, là. Je suis encore capable de manger sans problème, mais c'est juste dire, tout le monde a eu un impact. Même ceux qui n'en avaient pas sensiblement, ils en ont eu quand même.
Ouais. Alors, c'est fascinant, là. C'est un shit show, là. Comme on parlait, c'est ça, moi. C'est drôle parce que à chaque fois que je te parle, je veux pas te parler de, mettons, ma situation financière parce que tout le monde fait ça. Puis pour moi, c'est poche d'avoir cette relation-là avec toi, tu sais, parce que c'est pas
Comme
la
un
relation.
sexologue qui parle de temps de sexe avec ses amis.
Ben, c'est ça! Tu sais, c'est pas la relation que j'ai avec toi, puis c'est, je veux dire,
Non.
je te vois comme un gars que j'aime
C'est
bien, pas comme un, tu sais, un gars qui connaît l'argent, là, tu sais. Fait que
ça.
je me dis, j'essaie tout le temps d'éviter d'avoir ces discussions-là, parce que je fais comme, c'est poche sinon, là, tu sais.
Même
Je veux
moi,
pas.
je rentre là-dedans des formations professionnelles, tu sais. Puis, tu sais, quand tu
Ouais.
arrives dans des parties ou des 5 à 7, où là, on existe, ça n'existe plus. Là.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est comme le monde dans le small talk qui commence de même pour te jaser. Tu sais, puis c'est comme si t'es maquilleuse à la TV, puis quand t'arrives d'un 5 à 7, les gens te parlent de maquillage en commençant, comme si t'étais unidimensionnel. Tu sais, ça fait
Ouais,
partie.
c'est ça. Ouais, ben ça, tu l'as vécu. Je veux dire, tu as eu un énorme boost de popularité. Puis j'imagine que tu as dû vivre le clash de « OK, je suis rendu une affaire. » Là, puis là,
c'est ça. J'étais allé chercher un café tantôt sur la rue juste pour changer d'air, tu sais.
Ouais.
Le monsieur qui m'approche, puis « Hey, salut, hey, j'ai besoin de conseils, des finances personnelles, là, mettons. » Tout dans ça, c'est une façon de t'aborder. Fait que,
ouais.
Ça fait partie de la game.
Mais en même temps, c'est un signe de confiance, tu sais, ça veut dire que...
Ouais. Mais tu sais, je me demande si Colette Provencher, quand elle se promène sur la rue, puis elle rencontre quelqu'un qui écoute TVA, y a-t-il quelqu'un qui dit « Hey, il fait beau, hein? Le soleil, est-ce que c'est toujours comme ça, tu sais? »
Mais elle est chanceuse, elle a le même small talk que tout le monde a.
Oui, c'est vrai. « Hey, il fait beau, hein, oui? » Sauf qu'elle, elle peut ajouter à dire « Oui, mais il y a un système dépressionnaire qui s'en vient du... » Je peux rendre ça un petit peu plus scientifique.
Hey, j'ai appris de quoi que je ne savais pas par rapport à la météo. Je ne savais pas. Là, ça a l'air que les prédictions météorologiques sont moins précises qu'ils étaient. Puis, mon père m'a expliqué ça, puis j'avais aucune idée de ça. Dans le fond, parce que l'industrie aérienne est affectée, puis les avions volent moins, ça affecte la météo parce que les avions sont équipés de radars puis de plein de trucs qui envoient de l'information météorologique.
Tu vois, ça. Donc, on a une compilation de données.
Ouais. Fait que ça a fait que ça a nuit à l'industrie de la météo parce que ben, les avions ne volent pas, fait qu'ils ont moins de données, fait qu'ils sont moins capables de faire des prédictions qui sont.
Les avions polluent moins, il y a moins d'impact sur la température, je blague, mais.
Non, mais c'est vrai pareil. C'est quand même impressionnant. Là. J'étais comme, OK, tout est interconnecté, puis il y a un point où on ne s'en rend même pas compte. Là. Je trouve ça fascinant. Ouais, très cool. Fait que ouais, ben merci d'être là. C'est le fun. Là, c'est quoi? Là, t'as la radio le matin, t'as la radio le soir, t'as l'Indice McSween.
J'ai l'Indice McSween, j'ai Radio Soir à Québec aussi. Puis j'ai écrit un livre cette année, puis là, je suis en train d'écrire une autre affaire, puis là, j'ai un projet d'investissement. Puis tu sais, c'est un feu roulant de plein d'affaires, puis mais tant mieux pour moi. Mais je veux dire, mais c'est beaucoup. De demander, j'ai hâte d'atterrir.
As-tu l'impression que genre, tu te dis, OK, là, je suis dans une bonne passe, il faut que je goal, puis il faut que je cash in, genre?
Non, parce que ce passe-là est passé. C'est-à-dire que la passe de ta vie où tu dis, il faut que je goal, il faut battre le fer quand il est chaud, là. Ça, c'est il y a une couple d'années. Là, je suis plus dans un mood de dire, écoute, je vais avoir 42 ans cette année. Là, puis là, je fais comme, OK, là, tu peux pas maintenir ce rythme-là jusqu'à 50 parce que tu vas avoir l'impression de non seulement ta vingtaine, tu l'auras pas vu, ta trentaine va être passée de même. Mais ta meilleure décennie qui est la quarantaine, il faut que tu prennes le temps d'y goûter. Tu sais, c'est un peu comme quand tu manges dans la vie. Si tu manges comme un goinfle, t'absorbes, ton repas est fini. Mais si tu prends le temps de mâcher chaque bouchée, ben c'est un peu là que je veux aller, tu sais, comme aller moins dans la vitesse, mais être plus dans m'en souvenir. Mm-hmm. En termes comptables, je te dirais accumuler plus de BNR puis sortir moins de cash flow.
Non, mais ceux qui comprennent, tant mieux. Mais j'aime vraiment ça parce que moi, tu parlais de livres. Je ne sais pas si tu as mentionné, si tu peux dire c'est quoi ton prochain livre ou ça va sortir.
Oui, c'est en fait, je suis allé sur la facture amoureuse qui est le deuxième, je ne sais pas de sortir. Puis celui que j'ai fait là, tu sais pas être le troisième. Okay. Mais pour des raisons, le ministère va peut-être changer les règles sur les relations des conjoints de fait puis sur le patrimoine familial. Donc, je voulais pas sortir un livre 6 mois avant qu'il y ait des modifications. Donc, j'ai dit, OK, je vais faire le numéro 2 avant le numéro 3. Okay. Ça fonctionnait puisque c'est 3 sujets distincts.
Absolument. Puis, mais man, t'es chanceux d'avoir vu le flag ou d'avoir... Comment tu t'en es rendu compte?
Parce qu'il y avait une espèce de commission parlementaire sur ça. Ils ont fait des consultations publiques. Okay. Voyant ça aller. Puis là, la ministre qui était là a changé de siège. Donc, évidemment, ça va retarder. La COVID a fait comme... J'imagine que dans les ministères, présentement, tout ce qui était urgent de faire est plus orienté sur la survie de l'État, là. Donc, c'est ça. Fait que je vais attendre. Puis j'ai besoin aussi plus de l'externe. Les deux premiers livres, j'avais beaucoup de connaissances, beaucoup de capacité à trouver l'information dont j'avais besoin parce que c'était plus proche de mon champ d'expertise. Là, il y a toute une question légale qui est en bas. Et donc, je vais faire affaire avec des médiateurs, des avocats. Donc, c'est plus de temps. Puis, tu sais, parler avec des médiateurs, des avocats qui peuvent charger à l'heure à des clients, bien, faut que tu trouves le moment de les trouver. Puis bon, tout ça. Là.
Ah, je comprends. Ah, mais j'ai acheté tes livres en plus récemment.
J'ai vu ça, écoute.
Je t'ai écrit. J'étais comme, tiens, j'ai dit, le pas d'argent que j'ai, je vais au moins le gérer comme il faut.
Mais là, tu vois, là, on nous voit virtuellement, là, mais toi, dans le fond, t'es à peu près 1,5 km par là, je dirais à peu près, là.
Ouais, on est vraiment pas loin.
Pas loin, hein. Là, tu sais.
Ouais.
Je lance une roche, là, tu le reçois, tu sais.
Faut essayer de la pogner.
C'est ça.
Mais je lisais, j'ai commencé à lire justement le premier, puis c'est vraiment bon, pour vrai. C'est super okay, bon, c'est clair, c'est bien expliqué. Puis je me demandais à quel point, quand tu étais prof au cégep, ça t'a aidé à former ta façon de vulgariser les trucs. Puis de...
Quand on s'est à l'université pour le cégep, c'était un petit peu plus technique que ça. C'est plus... Ce que je te dirais, c'est niaiseux à dire, hein? Mais le sens du punch... Quand t'es prof, quand tu veux pas être plate,
ouais.
Tu développes. Donc, faire des chroniques, puis parler en l'air sans avoir de texte devant toi, puis structurer ta pensée, puis partir du point A au point B, tout en étant structuré puis compréhensible, ça, c'est niaiseux, mais la formation de CPA, ça aide beaucoup parce qu'il y a tout le temps, tu sais, on détermine le problème, on pose nos hypothèses, on fait des analyses quantitatives, qualitatives, on arrive à une conclusion, puis on recommande.
Okay.
Ça, c'est une résolution de problème, tu sais, pragmatique. Mm-hmm. Ça aide. Puis deuxièmement, enseigner, c'est que tu es capable de te mettre dans la peau de l'autre personne puis dire, quand moi j'étais à leur place,
qu'est-ce que je comprenais pas?
Mais quand tu arrives avec du grand public, il faut pas que tu fasses le même niveau de profondeur ou de théorique. Puis c'est de te dire, mettons que je suis dans un autre domaine, là, tu gardes tes réflexes. Si j'avais, je lisais un livre, exemple, sur le droit. Puis que je voulais que ce soit le fun. Je le présentais comment.
Mm-hmm.
Moi, en tant que lecteur, je voudrais le lire comment. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est un peu la même façon. Je veux pas. Si tu veux absolument parler à tes pairs, c'est-à-dire les gens de ton domaine, tu te plantes parce que, un, ils savent déjà ce que tu vas écrire, pas mal.
Mm-hmm.
Deux, c'est un langage qui va parler à personne. Donc, mais ça, c'est. Tu sais, moi, j'ai beaucoup insisté pour le mettre le mot décaissé. Tu sais, tu as des encaissements, tu as des décaissements. Mon éditeur, okay. Dans le livre, il a dit « Non, je ne veux pas voir le mot décaissement là, c'est trop compliqué. » Voyons donc. Fait que là, je me suis obstiné, je l'ai gardé, mais dans le deuxième livre, il n'en voulait pas. Mais je dis « Décaissement, c'est l'opposé d'encaissement. » Disons, c'est assez clair. Il dit « Non, c'est une dépense. » Non, c'est pas pareil. Décaisser, c'est sortir de l'argent. Dépense. Tu sais, là, j'avais une obstination théorique.
Okay. Ça, c'est vraiment c'est intéressant.
Et le seul joke que j'ai fait dans le premier livre, c'est que mon éditeur disait qu'il ne voulait pas voir le mot paradigme. Il dit, tu sais, les intellectuels qui ont enseigné à l'université et au cégep sont tout le temps en train de mettre le mot paradigme. Donc, quand tu t'en vas dans mon livre, une moment donné, tu vas tomber sur le mot paradigme. Puis là, je dis, ici, je parle de paradigme juste parce que mon éditeur m'a dit de ne pas le dire. Je voulais valider s'il lisait mon livre.
Ouais. Ah, j'adore ça. Ça c'est exactement ouais. Le genre de Easter egg que je mettrais dans mes affaires. De...
Ouais.
Bon, on faisait ça, tu sais, quand j'écris, mettons, pour de la TV ou des trucs comme ça. Puis des fois, on s'amusait à juste mettre une joke. Qui ne pouvait pas passer. Là. On est sûr qu'elle ne passe pas. Là. Puis on envoyait le texte juste pour voir.
Quand est-ce qu'il va le...
Ben, des fois, oui. Puis on faisait hey, by the way, ça, on le fera pas. Là. Puis ils sont comme non, faites pas ça. T'es comme oui, mais je voulais juste checker si tu lisais mes versions.
Ben, c'est ça. Puis des fois, ils disent comme moi, tantôt, j'ai envoyé un document à quelqu'un tu sais, qui m'a demandé une liste de documents pour du financement. Puis il y a un des documents qui est protégé. Puis la personne a dit ah, je te regarde ça tout de suite, je te reviens. Ça fait 3 jours.
Ouais.
Là, il est obligé de me rappeler pour dire écoute, pas grave d'ouvrir ton document. C'est là que je vais vérifier s'il utilise vraiment les documents que j'ai envoyés.
Ouais. Il y a un autre truc qu'on avait aussi qui marchait souvent, ce qui me faisait bien rire, c'est que tu avais une joke, mettons, une joke trash, puis pour qu'elle passe,
t'amènes plus trash.
Une joke plus trash au-dessus, comme ça, il te demande d'enlever la plus trash, puis la trash, elle a l'air pas si pire. Là, ta version elle passe, puis t'es comme yes, la joke que je voulais, c'était la première, pas la deuxième.
Ouais. Mais vous autres, les humoristes dans votre industrie, que, les gens voient souvent les humoristes comme une belle grande famille, alors que c'est tous des travailleurs autonomes qui sont totalement indépendants.
Ouais.
Bon, et tout ce qui arrive avec les brassages, des personnes qui ont des problèmes personnels assez majeurs qui... Mais le reste, là, est-ce que tu pourrais définir les humoristes en genre 3 groupes? Les millionnaires?
Ouais.
Ceux qui en vivent? Puis tout le monde en arrière qui essaye, c'est comment? Tu sais, y a-tu des clans? Tu sais,
Ben, je pense pas que les clans sont regroupés entre eux.
Non.
Tu sais, je pense que dans le fond, c'est un écosystème de à l'intérieur des mêmes groupes, plus d'amis qui ont plus d'affinités, t'as un peu tout. Là,
comme dans une entreprise, t'as un président puis t'as un commis. Ben, chez les humoristes, c'est pas parce que t'es Martin Matt que tu tiens Louis-José Hood, ça se peut que t'aies un ami qui est writer pour toi puis qu'il y a quelqu'un qui
va te penser. Exactement, tu sais, fait que c'est vraiment plus le temps avance, puis ça dépend aussi de ta personnalité. Je veux dire, il y a des gens qui ont des personnalités très carriéristes, qui sont amis avec tout le monde, mais amis avec personne en même temps.
Mais ça, c'est l'industrie, hein? Au-delà des heureux, là.
C'est ça.
Moi, je disais ça aux gens l'autre fois, je dis, moi, ma plus grande chance dans la vie, c'est d'avoir pas d'amis dans l'industrie. Puis, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est vrai, c'est pas un milieu facile, le milieu des médias ou le milieu de la vie un peu publique. Où c'est comme un peu un Game of Thrones perpétuel. Mais mes vrais amis, moi, j'ai pas besoin d'être autre chose que Pierre-Yves McSween, le gars.
Ouais.
Quand tu arrives dans un gala, puis tu sais, puis là, bon, là, il faut que j'aille, le monde, il faut qu'il se présente à telle personne, qu'il aille se présenter. Bon, là, tu sens très. Bon, telle personne fait un compliment à telle personne parce qu'elle veut jouer dans sa série. Ben, ah, c'est pas beau, là. Tu te dis, bon, Dieu, c'est épouvantable. Là, quelqu'un a un succès, tout le monde la félicite, mais la semaine d'avant, tu as vu cette même personne-là dire que c'était une personne. Moi, je suis tellement content d'arriver là, puis de repartir. Parce qu'à un moment donné, j'étais allé à un gala. Je vois un gala, toute une nomination de quelque chose, je ne me souviens plus. Puis là, j'arrive à l'après-gala. Puis là, là, le monde parle, tout ça, puis là, il y avait une file pour manger. Puis là, ma blonde me regarde, puis je dis, « Hey, on va-tu manger au chien fumant? » OK, fait qu'on est parti, tu sais!
Ouais.
Tout le monde veut rester pour le party après. Puis nous autres, on est arrivé au party, on est resté 15 minutes, puis on a fait comme,
ouais.
On va aller manger au resto, on va être mieux.
Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, qui m'a demandé, parce qu'il était curieux des galas, parce que j'ai fait un post cette semaine par rapport aux Olivier et tout ça, puis il me disait, ouais, mais je pensais que pour vous, c'est une occasion de faire du PR et tout ça, puis je fais comme, ben, en humour, c'est un peu moins en humour comme ce que tu as décrit, ouais. Là, l'espèce de genre, hey, je veux jouer dans ta série. Puis,
c'est juste les comédiens qui sont obligés de faire ça. T'sais.
Un peu plus, parce que c'est plate pour les comédiens, parce qu'ils ont une situation qui est vraiment particulière, c'est qu'il y a un rôle, il faut que je t'appelle toi, puis t'espères que le téléphone...
Que dans le rôle, puis quand je pense à appeler quelqu'un en audition, faut que je te flash. Fait que c'est comme ouais. Moi, je compare ça à tu sais, Marie-Antoinette, puis les courtisanes, puis la cour,
ouais.
Puis les gens qui tournent autour des rois, puis... Tandis que quand t'es en humour comme toi, oui, vous allez à vos premières, là, tu sais, comme quelqu'un fait une première médiatique, les autres y vont, puis les trophées, ça sert à envoyer des messages à l'industrie de « j'existe », t'sais.
Ouais, c'est médiatique, c'est marketing, là. C'est vraiment ça, c'est de l'autopromotion, les Olivier.
Ouais, puis tu sais, les galas en tant que tels, là, je ne veux pas dire ça aux gens, mais à TV, c'est beaucoup plus glamour que dans la salle.
Ouais.
En salle, OK, on va une pause tout le monde, après la pause, on voudrait que vous applaudissiez pour telle affaire. Là, ça va être ça. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils font ça, sont déjà blasés en arrivant. Tu sais, puis ça n'a rien. L'affaire la plus spectaculaire que j'ai vue, je pense, c'est le feu qui avait pogné dans... C'était-tu au gala artiste, au gala des Gémeaux, il y avait le feu qui avait pogné dans le décor. Ça, c'était excitant.
Pour vrai? Ah, je m'en rappelle pas.
Je suis allé, je pense. Mais sinon, c'est ça. Tu sais, puis ça, c'est l'autre affaire aussi.
T'as deux minutes d'impose là, pour jaser avec le monde. Fait que...
Tu jases pas vraiment.
Puis, ben, tu sais... En humour, on se connaît tous. On fait des shows ensemble. On se croise à l'année tout le temps. Fait que c'est tellement un petit milieu que... on est juste tous à la même place le même soir, mais je veux dire, on va se voir, on s'est vu la veille, on va se voir le lendemain. Fait qu'il y a comme pas de...
Non, il n'y a pas de changement. Puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, le marketing des trophées, je sais pas, moi, quand les gens disent, mon producteur dit, ah, c'est plate, tu sais, pas de nomination, mais t'as une nomination, t'as pas gagné. Je dis, hey, quand tu me payes pour faire un job qui est le fun, c'est exigeant, oui, mais tu me payes,
ouais.
Tu me donnes une nouvelle, là, hey, ça, c'est le trophée. Parce que si tu m'envoies un trophée, je suis chez nous, j'ai 8 trophées en haut de la cheminée, là, j'ai pas de cheminée, mais donc,
ouais.
T'as 8 trophées sur une tablette, mais ça sert à rien. Ou tu me donnes une paye, puis tu me renouvelles l'année prochaine, je vais prendre la paye. Moi, je préfère une année de travail à un trophée de plus. D'ailleurs, j'ai zéro trophée, donc c'est bien plus clair.
Mais honnêtement, là, c'est... Tu sais, moi, j'en ai 3, les Olivier.
Oh, ça, quand même!
Ça n'a jamais rien changé dans ma carrière. Non.
Mais c'était-tu des Olivier de... Toi, comme à l'avant-scène ou toi comme writer?
C'était moi comme writer. C'était des Olivier de groupe pour un projet de groupe. Ouais.
Donc, puis ça, c'est l'industrie. Là, tu tombes à l'intérieur de l'industrie. Puis, ouais. Ben, les gens, ils savent ce que tu es capable de faire. Donc, c'est pas le trophée qui vont changer leur idée sur il est capable d'écrire pour moi ou non. Tandis que si tu étais, je vais aller acheter son. Exemple, recrue de l'année, c'est quoi la dernière révélation de l'année?
Découverte. Ouais.
Découverte.
Ouais.
Bon, découverte de l'année, tu sais, ça peut être nice. Parce que. Les personnes à la maison vont voir ton nom. Ah, découverte de l'année, je vais aller le voir, tu sais, comme. Puis là, cette année, c'est drôle parce que votre gala, c'est comme. C'est. Le monde a fait des jokes à la maison.
Ouais.
Pas de budget. Puis pas de revenus. Puis là, tu vas avoir un trophée pour des jokes maison bénévoles. Tu sais, c'est une année comme
étrange. Là.
Étrange. C'est comme gagner la Coupe Stanley, pas de spectateur. Ça perd son glamour un peu.
Exact. Puis l'image qui est présentée de ces trophées-là ne reflète pas nécessairement la réalité sur le terrain, dans le sens où, tu sais, moi, le premier que j'ai gagné, c'était 2 ans après ma sortie de l'école.
C'était quoi?
Puis c'était pour l'écriture de Maxime Martin, son one-man show.
OK. Puis, moi, c'est un plus de Maxime Martin que toi, t'as écrit, t'as gagné pour l'avoir writé, j'imagine.
Ben oui, c'est normal, tu sais. Mm-hmm. Sauf que ce qui est fascinant, que tu sais pas quand tu le vis pas, c'est que quand c'est un prix de groupe, il y a un trophée qui est gratuit, qui est remis à la personne.
Les autres sont 300 billets chaque?
Ouais, 575.
Là, tu te le payes-tu?
Ben, à ce moment-là de ma carrière, je pouvais pas me le payer. J'avais pas l'argent. Fait que mon père m'a payé la moitié de mon trophée parce qu'il voulait absolument que je l'achète. Puis moi, j'étais pas capable de l'acheter, tu sais.
Fait que j'ai.
Comment t'as dit?
J'en ai acheté un.
Ouais, j'en ai acheté un, mais j'avais pas les moyens de me le payer. Fait que tu sais pas si ta carrière va bien quand tu gagnes un Olivier, mais t'as pas les moyens de te le payer. Là, tu te dis, genre, je me positionne où là-dedans? Là,
ça, c'est l'autre affaire que j'ai trouvé ça intéressant que tu t'en parles cette semaine, c'est-à-dire, il y a un prix d'entrée à être en nomination.
Ouais.
Et bon, après, ce que je comprends, c'est comme 400$, c'est-à-dire un prix pour la catégorie puis un prix pour. Être membre, c'est quoi?
Ben, c'est ça. Faut que tu t'inscrives comme membre de l'APIH. Ça, c'est comme 150$. Puis, il faut que tu soumettes ta candidature. Ça, c'est comme 250 pour juste pour qu'ils révisent ta demande de « j'aimerais ça être nommé ». Sauf que ça se peut que tu ne sois pas nommé même avec ça. T'sais. Fait que si tu n'es pas pris, tu viens de mettre 400$ dans le beurre pour être nommé. Fait que moi, je l'ai eu 2 ans. J'étais bien fier. Il y a une année où je me suis remis en nomination. Ils ne m'ont pas pris. Puis ça m'a vraiment écœuré parce que j'étais comme, ben là, genre, ça va full bien, puis ça m'a vraiment fait chier. Puis je comprends la game, fait que c'est correct. Mm-hmm. Puis je venais de gaspiller 400$. Fait que les années d'après, j'ai fait, ben, je m'inscrirai juste pas parce que je trouve que mon podcast ne fit plus vraiment dans cette catégorie-là de toute façon.
Ben, tu vois, dans les Gémeaux, c'est un peu l'équivalent. Les producteurs doivent payer par catégorie ou je sais pas trop. Fait que là, tu sais, maintenant, là, tu vois une affaire. Hey, 11 nominations Gémeaux. Ça veut dire que le producteur, il a payé. Pour la barre, il est payé pour le mettre en nomination dans des extras. Donc, c'est pas représentatif du tout. Puis là, quand tu dis que l'Académie a voté, moi, j'ai le droit de critiquer ou de rire un peu parce que je suis pas là-dedans. Tu sais, ça me dérange. Ouais. Je l'assume, c'est drôle. Mais l'Académie, là, tu vois l'Académie. Tu dis, l'Académie, ça doit être des gens comme à l'Académie française. Ouais. L'Académie, c'est tes collègues de travail de tous les projets qui s'inscrivent comme membres de l'Académie. Puis ce que tu sais pas, c'est que tu sais pas nécessairement quand tu commences, c'est que pour être membre de l'Académie, c'est une façon d'avoir ton billet du gala moins cher ou je sais pas trop quoi.
Ouais.
Et donc, tu t'inscris. Puis après ça, le monde vote. Mais ça veut dire qu'ils ont peut-être même pas regardé le show. Ils peuvent juste regarder la liste puis dire, ah, ça c'est mon ami, ça c'est mon ami, ça c'est mon ami. Il y a des gens qui ramassent des trophées, tu dis, voyons donc un show de chaise qui ramasse trophée de meilleure réalisation. Là. Je blague, je donne un exemple.
Oh, ouais.
Un show de je sais pas quoi, ou meilleure recherche, ou meilleur éclairage, là, tu dis, oui, ok, c'est beau, c'est correct. Mais là, tu dis, ok, c'est un show-là, versus ce show-là, il y a quelque chose qui marche pas. Mais c'est ça, mais c'est pas grave, c'est juste drôle, tu sais, comme.
Ouais.
Moi, je trouve ça plate des fois, comme dire, est-ce que le fait d'avoir des amis fait en sorte que, mettons, je sais pas, moi, le preneur de son sur mon show mérite peut-être une nomination, ou le réalisateur, mais parce que c'est moi qui porte le show qui est pas. Est-ce que eux autres sont pénalisés dans les votes des autres personnes? Mm-hmm. Ça, je trouve ça plate parce que moi, je peux me faire haïr comme je veux, ça ne me dérange pas. Mais les gens avec qui je travaille méritent autant d'être appréciés pour leur travail en tant que tel. Que... Fait que ça, c'est le bout qui. Ça, c'est le bout où que je trouve que tu sais, des fois, j'étais comme ouais, OK, là.
Ouais.
Ça arrête. Mais tu sais, bon, on parle de ça parce que c'est juste drôle parce que c'est pour montrer que même cette industrie-là, c'est du marketing. Même des nominations, c'est du marketing intrinsèque parmi des gens que tu connais, puis des amis, des alliés. C'est compliqué, tu sais.
Ben, c'est un milieu d'humain, fait que tu n'auras pas le choix. La dimension humaine va tout le temps prendre le dessus, j'ai l'impression. Là, puis... Mais ça, c'est quelque chose, tu as nommé de quoi qui m'intéresse, par exemple. T'as-tu l'impression d'être un peu, je ne sais pas si c'est le bon mot, antagonisé, par rapport à ta position? T'sais, tu parles beaucoup d'argent, fait que c'est parce que c'est ton expertise.
Pour ça, là, mais tu sais, il y en a qui me détestent pour 1000 raisons, parce que quand t'es confrontant, c'est comme quelqu'un, mettons, en politique qui est très de droite ou très de gauche. Cette personne-là peut confronter des gens d'un point de vue opposé. Quand tu parles d'argent de façon décomplexée parce que c'est ta job, puis qu'il y a du monde qui ont des gros issues avec ça, ben c'est sûr qu'il y a certaines personnes, pas tout le monde, parce qu'il y en a qui sont bien à l'aise, mais certaines personnes qui vont être réactionnaires face à ce que tu fais. Et souvent, les personnes qui sont le plus réactionnaires face à ce que je fais ou qui ont une réaction un petit peu bizarre au début, je comprends pourquoi après, parce que par personne interposée, je comprends leur situation. Bon, mais c'est pour ça que je dis des fois, tu sais, t'as moi dans une émission, mettons, t'as le chroniqueur culturel. Ben, le chroniqueur culturel, tu peux être d'accord ou non avec son point de vue sur il aime tel show, il aime tel autre ou non. Mais il n'y a personne qui va y écrire, dans ce que je pense pas, pour l'atteindre autant personnellement puis l'insulter autant personnellement parce qu'il n'est pas d'accord. Tu sais, mettons que, je sais pas moi, la personne va voir un show de Céline Dion, elle dit « c'est le meilleur show que j'ai vu de ma vie, moi je suis pas d'accord, je dis, ben non, moi mon meilleur show c'était, je sais pas moi, ACDC en 1900. »
Ouais.
Mais, je suis pas d'accord avec votre point de vue, c'est ça. Mais, tu sais, les courriels que je reçois des fois, c'est assez spectaculaire, tu sais. C'est assez... Les hommes sont quelque chose.
Hein.
Là, sur les réseaux sociaux, surtout en pandémie, là, je ne sais pas si tu as vécu ça avec des amis gars ou filles, là, mais il y a beaucoup d'hommes frustrés au Québec qui, dans le fond, jettent leur frustration sur des personnes qui ont une visibilité. Et c'est assez spectaculaire ce que tu peux recevoir. Ouais. Contrairement aux femmes, par exemple, je ne reçois pas des courriels ou des messages Facebook sexuels menaçants.
Okay.
Ça commence à être un véritable problème. Là. Ouais. Des hommes frustrés qui écrivent à des femmes dans les médias pour les insulter sexuellement sans aucune retenue. Nous, c'est plus, les gars, en tout cas moi, de mon point de vue, moi, c'est plus tenter de t'affecter personnellement, de t'insulter sur ton physique, sur tes compétences, sur tenter de te mettre en ridicule avec un contre-exemple par rapport. T'sais. Mais beaucoup dans la violence. C'est de la violence verbale.
Ouais. Ouais.
Donc, ça,
mais tu... Parce que je trouve ça fascinant, mais je ne l'ai pas, cette espèce de complexe-là par rapport à l'argent. Mais toi, tu dois le sentir pour vrai. Mais je ne savais même pas que c'était si présent que ça. Il y a vraiment un complexe par rapport à l'argent. Ces gens-là réagissent à quoi? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas là-dedans?
Mais mettons que tu dis à quelqu'un, voici pour s'organiser à 40 ans, d'exposer à peu près là, où tu peux être arrivé à telle situation. Si tu as fait un choix éclairé, si tu as telle affaire, bon, ça dépend de ta situation de vie, évidemment.
Mm-hmm.
La personne-là est exactement dans l'inverse. Elle a fait des choix bizarres, vraiment bizarres. Elle a pris des engagements financiers sans aucun sens. Elle a vécu sa vie à 100 000 à l'heure. Puis là, elle commence à vivre les conséquences à 45, 50 ans majeures de « ça sera jamais comme s'il y avait eu d'autres choix ». Puis là, en se faisant confronter de même, il essaie de protéger les choix passés puis de les affirmer puis de dire « tout est plate, McSween, dans la vie ». T'as pas mal si plate chez nous. Tu sais, je suis là, je dis… C'est-tu vraiment plus hot chez vous? Je dis, tu manges-tu vraiment de la meilleure bouffe? Tu vois-tu du meilleur vin? Tes sorties sont-tu vraiment plus chères? T'es... OK, t'es allé 6 fois en Europe, je suis allé 2 fois, mais tu sais, on attaque beaucoup à mon mode de vie que personne ne connaît. Ça, c'est très drôle. Parce que je te donne un exemple. Rendu à notre âge, tu sais, t'as un certain niveau d'actif. T'sais. Moi, j'étais CPA avant. J'ai fait d'autres affaires, j'ai épargné. J'ai pas une vie précaire comme un artiste, c'est sûr, un acteur ou quelqu'un qui des fois, il y a un an, pas de contrat. T'sais. Puis, fait que là, comme le moment de la bourse présentement est très payant, puis là, tu vois ton actif monter parce que la bourse a pris 2 %. Tu te dis, aïe, aïe, hein. Ben, c'est un 2 %-là qui a pris, mettons, de valeur, puis là, ça te permet de donner de l'argent. Tu te dis, contrairement à l'autre personne qui dépense tout ce qu'elle a au fur et à mesure, tu te dis, ben, je dépense autant que toi, c'est juste que moi, il y en a qui arrivent de l'argent. L'argent travaille pour moi maintenant. Puis
ouais.
C'est ça qui est confrontant parce que là, tu peux pas me traiter de cheap ou de vie plate ou radine. Viens chez nous, j'ai le même mode de vie que toi.
Ouais.
La différence, c'est qu'il y a un paquet qui travaille. Puis je connais pas beaucoup de CPA que là, il n'y a pas un paquet à notre âge qui travaille un peu parce qu'ils ont tous travaillé pour ça. Ce serait bizarre d'avoir un CPA sur le bord de la faillite. Là. Il doit en avoir, mais je veux dire,
ouais.
C'est mais tu sais, il faut être cohérent. Demander, je suis chroniqueur économique. As-tu quelque chose de plus risible qu'un chroniqueur économique qui n'arrive pas dans ses propres finances?
Ouais.
Fait que tu sais, j'ai pas bien le choix d'être donné l'exemple en général, d'avoir un peu de logique. Là. Mais j'utilise l'effet de levier. Tu sais, j'endette mon immeuble puis je l'investis. Puis c'est ça.
OK. Mais c'est ça. Fait, c'est juste d'être au courant. Parce qu'on n'a pas l'éducation là-dessus. On n'est pas éduqué avec l'argent.
Ah, bien. Mais tu sais, c'est pas. Moi, je ne vais pas tomber dans les patentes de judéo-christianisme. Je ne suis pas là-dedans. Je suis vraiment plus de genre. On était un peuple assez pauvre. Puis quand on est pauvre, bien, on toutes ces notions-là d'investissement, quand tu es un travailleur d'usine en moyenne il y a 50, 60 ans, tu n'as pas vraiment de contrôle sur tes finances. Tu as des enfants, tu as un salaire qui rentre, tu as une retraite, tu as une mort. C'était assez simple. C'est tellement complexifié aujourd'hui que c'est une autre vie, tu sais. C'est plus la même affaire.
Il y a plein de moves que tu peux faire. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé avec GameStop? Puis j'imagine que tu en as parlé beaucoup. Là.
Ah oui, mais regarde, justement, c'est drôle parce que je regardais ça tantôt. Là, l'action, tu vois, on va aller voir ça direct, OK?
Mm-hmm.
L'action, présentement, où on se parle, justement, il y a un article sur Reddit là, qui dit présentement GameStop. GameStop. L'action doit être rendue en bas de 70$ au moment où on se parle. Et tabarouette, c'est encore pire. 60$, OK? T'es à 400 quelques jours. Là. Et ouais. Tu sais, quand tu penses fondamentalement à GameStop, toi, es-tu un fan d'EB Games? Tu connais-tu ça un peu?
Je connais le magasin, mais je n'étais pas un fan du magasin en tant que tel. Là, mais...
T'es pas un gamer.
Ben oui, mais pas... Ouais, ben,
comme moi, c'est un gamer de... Moi, je suis un gamer de 1995, le Black
Man. Ben, moi aussi, là, je joue à des vieux là, jeux, puis comme ben heureux.
Ils ont des Nintendo, puis bon. Mais là, ouais. Dans le fond, vendre des jeux au détail, puis faire, c'est pas si payant que ça, puis l'action vivotait, puis ça vaut pas grand-chose comme compagnie, parce que ça a des difficultés financières, puis là, bon, il y a une compagnie qui a bêté contre la valeur du titre, puis c'est bon, ça... Il y a des gens sur Internet qui sont en gang pour acheter des actions pour compenser le bet contre les actions. Puis ça fait en sorte de faire monter la valeur artificiellement. Et là, j'ai dit, mais ça n'a aucun sens. Fondamentalement, ça va planter. On ne sait juste pas quand. Ça dépend quand est-ce que les vendeurs à découvert vont finir de couvrir leur position, peu importe. Mais là, la hausse d'action tient aussi longtemps qu'il y a cette solidarité-là, puis personne n'a peur. Là, quand l'action passe de 400$ à 100, à 60, là, il y a plein de monde, à le moment qui ont acheté ça cher, qui veulent vendre juste pour couvrir leur...
Mm-hmm.
Peu importe ce qu'ils disent rationnellement derrière, il y a quelqu'un qui va le racheter plus cher, peu importe. T'sais. Mais ça démontre comment du petit gambling, ça peut être payant, mais ça peut aussi être mort.
Ouais.
Moi, je suis pas ce genre-là. Moi, j'achète des titres. Mm-hmm. Comme j'ai acheté, pendant la pandémie, j'ai acheté Google.
OK.
Un bon montant de Google, puis je vais m'asseoir dessus pendant des années. T'sais. J'ai fait une bonne passe parce que j'ai acheté Google dans le creux. Tu sais, je suis vraiment arrivé un vendredi, là. Puis ça, c'est un exemple de situation. Tu sais, j'étais là, tout le monde en parle, puis j'ai dit, bon, là, j'ai mis 100 000 en bourse, puis là, j'ai reçu des insultes.
Ah ouais?
Ah oui, mais j'ai pas mis 100 000. J'ai pas pris 100 000 de mes poches, puis je... Ce qui est arrivé, ouais. C'est que j'avais un portefeuille, puis j'ai pris de l'argent du marché monétaire, puis je l'ai redistribué dans deux titres, Microsoft et Google. Donc, je l'ai déplacé. Puis le monde dit, ah, on peut bien parler 100 000. Hey, à 42 ans, votre régime de retraite vaut plus que ça. Là. C'est juste que moi, je suis en autogestion. Vous ne le voyez pas quand vous êtes travailleur, vous avez un régime à prestation déterminée, que vous valez 200 000 à mon âge, ou 250 ou 300. Mais moi, je le vois parce que je l'ai dans mon portefeuille, donc je déplace. Mais je parle de ça de façon désinvolte comme ça.
Mm-hmm.
Et moi, juste avant, tout le monde en parle, il y avait un gars qui était allé parler de ses problèmes avec... l'édition, puis qui avait été accusé à tort. Puis ça. Mais moi, je suis dingue là, je l'avais pas l'entrevue avant. Là.
On n'écoute pas tout le temps les shows quand on
va. Là, moi, j'arrive en. Tu sais, tout le monde en parle, je rentre, il commence à me baver, je leur réponds, je saltimbanque un peu, mais moi, je comprends pas. Tu sais, mon cerveau fait pas le déclin. Hey, on est en pandémie, puis Pierre, c'est pas le temps de parler de tout ça. T'sais. Mais ils veulent m'attaquer en disant, hey, t'es bien cheap. Fait que là, je réponds en joke, ben oui, je suis tellement cheap, j'ai fait ça de même. T'sais.
Ouais.
C'est comme. Tu peux pas. Oui, tu peux jamais gagner. Moi, c'est ça que j'ai compris. Tu ne peux pas gagner à sens de remporter la victoire, mais de. Il y a toujours du monde qui vont te détester. Fait qu'il faut que tu apprennes à vivre avec. Tu sais.
Ouais. Mais il y a quelque chose. Mais ça m'a fasciné, cette espèce de mouvement-là qui était comme une espèce de. On veut jouer la game que Wall Street joue. Puis on va essayer de les.
Les battre. Quelque...
Ouais, il y a une partie de moi là-dedans qui a trouvé ça cool. De genre, ah, c'est hot de... parce qu'il manipulait le marché. Puis j'avais l'impression de ce que j'en sais que. Le marché, ils manipulent tout le temps le marché, eux, de leur bord. Puis là, ils étaient juste fâchés que les individus puissent jouer la même game qu'eux autres, ils jouent.
Ouais, mais la réalité, c'est que c'est une transaction, c'est un titre, c'est des short sellers qui ont pris beaucoup trop de positions contre le marché. Mais dans le reste du monde, ils peuvent pas faire ça tout le temps. Tu sais,
ouais.
C'est comme un exemple, c'est un contre-exemple. Vraiment un. Ce que je peux dire, c'est que historiquement, les gens qui spéculent de la sorte et qui font un bon coup, ben ils risquent d'en faire des moins bons après. Et que si c'était si facile que ça, de faire de l'argent en bourse, puis tu peux jouer comme tu jouais à un Nintendo, ben tout le monde serait riche, tout le monde ne travaillerait pas. Tu sais, parce que c'est toujours, toujours facile de regarder ça avec le recul. Je te dis, exemple, si tu savais aujourd'hui que Amazon vaut ce que ça vaut, puis je te dis, en 1997, aurais-tu mis 10 000 là-dessus? Tu me dis, ben oui!
Ben, c'est ça.
Aujourd'hui, ton 10 000 vaudrait 21 millions de dollars.
Ouais.
Mais, en 97...
Faut que tu aies de la vision.
Comme à Apple, tout le monde pensait que ça avait atteint un certain apogée. Puis ben non, avec le cloud, ça a évolué. Microsoft, même chose. Amazon, même affaire. Amazon, avant, ça vendait des colis. Ça livrait des colis. C'était ça, le core business. Mais quand ils sont rentrés dans la cloud, l'info nuagique, là, la profitabilité est arrivée par là.
Puis, OK.
C'est pas encore très profitable de te vendre des colis pour l'argent que ça coûte. Donc, okay. Amazon ne fait presque pas d'argent sur les colis, mais ça génère une masse critique qui s'abonne à des affaires, à Amazon Prime et tout ça. Et donc, ça amortit les coûts fixes. Puis là, tu arrives avec l'info nuagique, puis ça, la marge est spectaculaire. Donc, la moitié de la marge opérationnelle d'Amazon, c'est le département qui s'appelle AWS, qui est, tu sais, c'est les web services. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui fait. Ce qui fait vivre Amazon vraiment, c'est même pas de te livrer des colis, contrairement à ce que tout le monde pense.
OK. Ah ouais, hein?
Mais ça te permet d'avoir une masse critique qui utilise tes services, puis là, tu peux leur vendre 1000 affaires après ça, comme les speakers Alexa que tu peux commander par interface vocale. Puis... D'ailleurs, si tu as un humoriste dans la gang qui va chez un ami qui a un speaker Alexa, c'est toujours drôle d'y commander des affaires pendant un party par rapport, mais tu sais, dans sa liste d'achat, tu sais. Nous autres, on a fait ça vraiment comme des épées, là. Tu sais, okay. J'ai un ami dans le temps de Noël, il y a 2 ans. Puis là, on dit, Alexa, commande telle affaire, telle affaire, telle affaire. Quand, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu dans son panier, mais c'est épouvantable.
Mais ça ne l'a pas commandé, genre, ça n'a pas passé
non,
la
commande. Tu sais, ça disait, mettons, je ne sais pas, puis là, je vais mettre un article qu'on n'avait pas dit. Là. Ce bat de baseball a été ajouté à votre. À
ouais.
Votre mais il faut qu'il paye sur commandé, tu sais.
Ah, c'est bon, j'adore ça. Ouais, je me méfie de ces trucs-là. Moi, ouais, Google, ils m'ont donné un Google Home. Là.
Ouais, puis moi, je l'ai donné.
Ouais, ben moi, je l'ai plugué, puis je m'en sers pas. Je veux pas m'en servir. Puis à un moment donné, j'ai oublié qu'il était branché, puis j'étais à l'ordi, je travaillais. Puis elle s'est mise à juste parler parce que j'ai dit quoi qui devait ressembler à OK Google. Là.
Ouais.
Puis genre, j'ai juste tellement fait un saut que j'ai fait, hey, fuck that, là, c'est pas vrai.
Un bon exemple, c'est j'avais vu ça dans un article, ça, tu sais, un an ou deux. Il y a un gars qui se chicanait avec sa blonde. Puis il a dit, probablement dans la conversation, appelle Patrick, il va te le dire.
Puis ça l'a appelé Patrick.
Il appelle Patrick, puis les deux amis continuent à s'engueuler, tu comprends-tu? Donc les deux personnes s'engueulent. Puis là, Patrick, il est l'autre bord, puis il entend ça, tu sais. Fait que tu vois que c'est dangereux, ces affaires-là. Ah,
oh, mon Dieu, clairement.
Tu sais, là, j'ai acheté un speaker, il est marqué que c'est compatible avec ces affaires-là. Moi, je veux pas brancher ça. Je veux rien savoir.
Ouais. Ouais, ça m'intéresse pas non plus. Ben, non. Moi, on me dit tout le temps, quand c'est gratuit, c'est parce que c'est toi le produit. Là.
Ah, exactement. T'as tout à fait compris. D'ailleurs, Robinhood, quand tu me parlais tantôt de GameStop,
ouais.
Robinhood, qui est l'application qui te permet d'acheter sans frais, ben, c'est parce qu'ils prennent une cote sur tes transactions à quelque part. Parce ouais. que si l'application coûte rien, puis ton abonnement coûte rien, ta transaction coûte rien, c'est parce que quand tu achètes un titre à tel prix, tu aurais pu l'avoir à un meilleur prix. D'ailleurs, Robinhood, leur rentabilité par dollar client pour l'interface est bien plus grande que les autres parce que, justement, ils font plus d'argent sur le dos du client. Quand le client dit « on est libre marché, mais qui se bat contre le Wall Street », non, non, t'en fais partie, tu sais. Ouais. T'es juste pas assez réfléchi pour le voir, tu sais. C'est partie de la vie.
J'allais direct te parler de Robinhood parce que là, pendant toute cette saga-là de genre on modifie, on essaie de bêter sur les titres puis de monter la valeur, eux autres, ils ont comme paniqué puis ils ont empêché le monde de c'est de vendre ou d'acheter. Je ne sais pas lequel.
Pas c'est une application. Hein?
Ouais.
Donc, ils ont empêché le monde d'acheter.
OK.
Mais là, ça va y avoir une enquête là-dessus. C'est un peu nébuleux, mais tu sais, il peut y avoir, exemple, tu es Robinhood, tu as des ordres d'achat. Il y a un intermédiaire qui vend, qui achète pour toi. Puis là, sur le marché, il n'est plus capable de se positionner de la bonne façon. Mais tu vois, mais il y a d'autres ponts qui se positionnent. Ouais, mais le mécanisme est comment? Robinhood, c'est une interface vers un trader qui, lui, trade. C'est okay. pas un trade, c'est la bourse. C'est comme si je l'appelais « Pierre Bruno, veux-tu m'acheter des actions de la Banque nationale? » Là, tu dis « OK, je les achète. » C'est une interface, tu sais, qui a une entente avec un fournisseur en arrière. Les raisons, on va les savoir, mais chose certaine, ça te dit une chose. Si tu ne contrôles pas l'outil, puis tu ne peux pas avoir confiance à l'outil à 100%, moi, c'est la seule chose dont je suis sûr, c'est de dire, ah, tu peux pas dire que tu vas toujours pouvoir performer parce que la bourse, c'est aussi une question de timing. Donc,
okay.
Il y a une valeur à faire, à payer un service, à payer des trades. D'ailleurs, tu sais, payer 10$ par trade, si ça t'influence, c'est parce que tu n'achètes pas des assez gros montants. Parce que si tu achètes des montants de 10 000 à la fois ou de 5 000 à la fois, ça ne te dérange pas de payer 10$. Mais si tu transiges les petits 200$, c'est sûr que tu manges ton profit.
Ah, c'est pas fou ça. Mm-hmm. Puis, mais c'est épeurant cette game-là. Quand tu ne connais pas ça puis tu t'embarques là-dedans, je veux dire.
Je ne la regarde pas. T'sais, moi, je ne l'ai juste pas regardé ce game-là. Je l'ai regardé comme observateur externe, mais. J'ai-tu mis de l'argent là-dedans, dire j'avais peur de pas profiter de la manne? Et non, ouais. Je me suis dit, dans deux semaines, ce titre-là vaut rien. Donc, ouais. Je n'embarque pas là, je retourne juste, je reste juste à la même place, je l'achète pas. T'sais. Pendant ce temps-là, on achète des titres qui sont plus blue chip, plus responsables, plus long terme. Et tu sais, pendant que le monde achetait du GameStop, moi, je suis allé acheter du Bell, c'est du BCE. Pendant que le monde achète du GameStop, tu sais, moi, je vends du Stingray. Tu sais, quand même, tu sais, c'est. Reste dans ta game. Tu sais, connais ton carré de sable, comme dirait un gars que je connais. T'sais.
Reste dans ton carré de sable.
Ouais. Si c'est pour ta game de jouer à ça, va jouer avec les gens qui jouent, mais tu peux te brûler.
Ouais, c'est ça. Puis est-ce qu'il faut que tu nécessairement que tu lises et que tu sois au courant de ce qui se passe sur le terrain dans ces business-là pour être en mesure de faire des choix éclairés ou tu peux juste regarder les tendances de la bourse puis regarder, OK, là, on est dans un ça descend, ça va remonter ou des trucs comme ça?
Moi, au niveau de l'investissement, parce qu'il ne faut pas oublier que la chronique économique aussi, c'est finance, fiscalité, économie, tu sais, il y a autre chose que la bourse, tu sais. Mm-hmm. Mais la bourse en tant que telle, moi, je suis très fondamental, c'est-à-dire, cette entreprise-là, c'est quoi son marché? Est-ce que c'est en croissance? Est-ce que je pense qu'il y a de l'avenir, il y a des débouchés, tout ça? Si je crois au titre, puis je trouve qu'au niveau des résultats financiers, puis la maturité de l'entreprise par rapport aux revenus, il y a de l'arbitrage à faire, je vais acheter, mais moi, j'achète jamais en disant ça va monter, ça va descendre. J'achète parce que je le trouve bien positionné par rapport à ce que ça peut avoir comme plein potentiel.
OK.
Et donc, c'est comme quelqu'un qui avait acheté Apple au début, qui ont sorti l'iPhone. Tu peux te dire, ils pourront jamais prendre le marché. Ou plutôt, non, tout le monde va vouloir un téléphone comme ça. Donc, à l'époque, c'est niaiseux, mais quand l'iPhone est sorti, le monde oublie que le BlackBerry, c'était le king of the king, là, tu sais. Uh-huh. Dans le monde des affaires, c'était « touche pas à mon BlackBerry ». Il n'y a personne qui peut prédire l'avenir. Mais il y a des compagnies qui vont être là. Comme par exemple, moi, j'ai de la Banque Royale dans mon portefeuille.
Okay.
Pourquoi? La Banque Royale me donne 4% de dividendes par année. Ben, 4% de dividendes en partant sans gain de valeur, ça donne une portion de mon portefeuille qui me garantit à peu près un 4%. Si l'action plante, mon dividende risque de rester à peu près au même niveau, donc augmenter en pourcentage de la valeur du titre. Donc, ça, c'est le genre d'analyse que moi, je veux, que moi, je fais, mais que d'autres ne veulent pas, parce qu'on est rendu qu'on veut du résultat instantané, du spectaculaire.
Mm-hmm.
Et on vend aux gens du succès instantané puis de la rentabilité instantanée, mais c'est tellement compliqué. Tu sais, mettons, toi, tu es humoriste, mettons.
Ouais.
Une tournée de spectacle. Le monde regarde le prix du billet puis il dit « Tabarouette, Pierre Bruno, hein? Il me vend ça 30$. On est 100 dans la salle. Mais 100 fois 30$, est-ce que tu viens de faire 3000? »
Ouais. Non.
Non, pas en tout. Là. Pierre Bruno est 3000, mais il a payé la salle, le gars de son, la mise en scène, l'éclairage, l'intermédiaire, la finance, la comptabilité. T'sais. Pierre Bruno a peut-être fait 300$ dans sa soirée pour ça. Ouais.
Pas mais mal. Ça,
on ne le voit pas. Ouais. Donc, on veut du succès vite, puis on pense que l'argent se fait vite. Puis moi, je trouve qu'Instagram, c'est épouvantable pour ça. Ça fait montrer à du monde des modèles d'affaires qui n'existent pas. Tu sais, quand la personne, par exemple, est chez elle, puis elle dit « Ah, moi, je suis coach chez nous, puis je vis de ça. » OK, correct. Est-ce que tu es coach tout seul ou tu vis de ça parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui paye tout? Ou tu vis de ça parce que, dans le fond, tes revenus, c'est sur la vente d'autres choses? Est-ce que ton modèle est soutenable? Tu sais, je trouve qu'on est très, très, très dans la l'instantanéité du succès, puis que ça peut durer, puis que c'est la pensée magique, mais c'est tough, là.
C'est intéressant parce que j'en vois énormément passer, moi, tu sais, il y a tout le temps des coachs autoproclamés de toutes, là, mal filmés.
Vic Cancillon.
Ouais.
Pardon?
Toutes mal filmées, là, avec leur téléphone. Oh, ouais. Puis genre, regarde ça, j'ai une Lamborghini, puis là, t'es comme... T'sais, c'est tout le temps la même technique de phishing, là, d'essayer d'aller te chercher.
Ouais. Moi, ce que j'aimais, c'est l'autre qui était dans son jet privé. Né dans ma conférence, oui, ça soit dans le jet privé, mais dans le fond, le jet privé n'a jamais décollé. Là. C'était juste pour...
Ouais. Mais est-ce que, Est-ce que tu as déjà pensé, pour peut-être l'indice McSwain ou quoi que ce soit, de justement essayer d'aller debunker ces gens-là?
Oui, c'est sûr. J'en ai fait un, mais tu sais, c'est dangereux parce que les gens, ils prennent personnel. Mais tu sais, je te donne un exemple. Il y a un coach immobilier que j'ai vu. Excuse-moi, je suis en train de jouer avec le
crâne. Pas de trouble.
Il y a un coach immobilier que j'ai vu qui donnait des exemples de ses étudiants à succès. Mais quand tu fouilles un peu les photos des étudiants à succès, c'est des photos que tu peux pogner sur iStock Photo. Fait que ces étudiants à succès sont pas vrais. Ben, tu sais, bon, c'est peut-être des vrais étudiants, mais qu'ils ont représenté autrement. Mais c'est surtout qu'on vend la facilité. Tu sais, vivez de l'immobilier en 4 mois. Voyons, ben non, ça n'arrivera pas. Tu sais, commandez immédiatement, vous allez avoir ma formation de 5 000$ à seulement 1 497$.
Ouais.
Donc là, puis tu sais, je ne vais pas pointer personne, mais tu sais, il y a des personnes populaires, puis à un moment donné, ils deviennent des... C'est comme moi, mettons, je disais, là, OK, moi, je me parle de business de coach, puis des capsules, puis des... Tu sais, pourquoi je le fais pas? Parce que, un, j'arrête pas de critiquer ça, mais deux, hey, si tu as une recette à me vendre à 30$ la webinaire par mois, là, ça te tente pas à la place de m'écrire un livre à 24,95$, puis tout écrire dedans?
Ouais.
Donc, moi, j'ai écrit 2 livres. Imagine, j'avais pris les 2 livres pour lui les écrire. J'avais fait 40 capsules. Puis que je vendais ça à 1 000$ ou à 400$, le forfait, on a surévalué ce que ça vaut puis ce que ça coûte à produire. Parce que les moyens sont plus comme avant. Tu n'as plus besoin d'avoir des professionnels en place pour faire des affaires comme toi. Tu peux faire une capsule qui est bien correcte, mm-hmm, sans l'aide d'un preneur de son ou quoi que ce soit, avec ton équipement. Je suis sûr que tu peux faire des affaires, ouais, cool. Puis là, si tu vends ça à 30$ par mois pendant 12 mois, ben, 30$ pendant 12 mois, 360$ par personne. Tu vends ça à 1000 personnes, 360$, tu viens de faire 360 000 de chiffre d'affaires. C'est pas évident de faire ça.
Ouais.
Mais je dis, hey, pourquoi tu m'as pas vendu un livre à 24$ à la place? Puis tu n'as pas tout écrit ce qu'il y avait dedans. Je vais le lire au lieu de l'écouter. Ouais. Ouais, c'est moins payant. Ben, mais c'est ça.
C'est moins payant. Mais... Fait que c'est vraiment une question de philosophie rendue là.
Ouais, puis tu sais, j'ai toujours eu peur des gourous. Moi, j'ai fait des cours de Jambé, de demander, ça virait trop gourou. Je vois du monde qui sont dans des... Mettons, ils font une affaire, ça devient comme, bon, le yoga, là, ça devient une religion, tu sais. La personne en charge du yoga devient une espèce de dieu pour eux autres. Après ça, ils font des activités, d'autres choses. Chaque fois qu'ils font une activité, la personne qui leur vend l'activité est comme amenée à un niveau presque divin. Puis là, tu te dis, attends une minute, là. Cette personne-là, après ça, voit bien les followers puis commence à se créer des capsules, des identités, puis vend des formations à 3-4 000, puis à travers... Ça me rend mal à l'aise. Je vais être bien avec toi. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer.
Ouais.
Mais je trouve que là, il y a plus de monde qui coach que du monde à coacher.
Ouais. Ah, j'ai le même rapport par rapport à tout ça. Je suis toujours excessivement méfiant du monde qui veut essayer de se créer un aura. Puis c'est ce qui me complique un peu la vie, je pense, dans le domaine artistique, là. C'est que j'ai un gros problème avec tout ce qui est prétention. Puis la vanité, puis tout ça.
Le problème, c'est que dans ce domaine-là, il faut que tu chaînes.
Ouais.
Il y a des gens qui sont obligés de jouer ce game-là, puis je leur en veux pas. Mais moi, ce que j'ai trouvé dur, ce que j'ai trouvé spécial un peu à la TV, c'est comment tu es traité. Tu sais, mettons, j'anime, donc j'arrive sur le plateau de tournage, tout le monde te traite comme si tu étais
fragile, puis
ben, pas fragile, que... on fait attention, tiens, non, je vais y aller pour toi, transporte rien, je vais vous aider, non, touche à rien, tu sais. Puis là, tu es là, dis, aïe, aïe. Moi, j'ai travaillé pendant 17-18 ans dans un autre domaine avant. J'étais habitué d'être la personne qui opère, tu sais.
Ouais.
Tu arrives dans ce milieu-là, puis tu dis, OK, du monde qui ont toujours été avec ça alentour, cette espèce de, tiens, veux-tu un café? Je t'en apporte un. T'as-tu faim? T'as-tu soif? Reste assis, on va s'occuper. Tiens, là, tu as une couverte, t'as réchauffé. Hey, si tu étais dans cet environnement-là depuis que tu as 22 ans, je pense pas que ta tête passe dans la porte nulle part, même si c'est une porte patio. Parce que, tu sais, on te flatte l'ego pour que, tu sais, c'est malsain.
C'est ce qui me fait rusher le plus depuis le début de ma carrière, c'est cette espèce de rapport-là à, genre, ah non, mais là, tout le monde a peur que tu sois de mauvaise humeur parce que là, ultimement, puisque toi qui es à l'écran, c'est ça qui va affecter le produit. Puis là, t'es comme, hey, guys, ça va, là. Moi, je suis conscient de tout le monde sur le plateau, genre, le caméraman, toi, c'est-tu cool, ça t'aide-tu, le son. Puis, effectivement, c'est ça le problème, c'est ça qui fait que le monde perd la tête, puis que quand ils deviennent connus rapidement, vite et jeunes, ceux qui ne sont pas bien groundés et qui ne se méfient pas de ça ou qui n'ont pas fait beaucoup de travail personnel, ben, c'est sûr que tu vas être fou.
Fait que, pas à 25 ans, là. Tu sais pas à 25 ans que c'est pas la vraie vie si t'as pas eu de vraie vie avant. Ouais. Ça doit être OK quand même de dire, mettons que tu as un enfant à la télé, comme la joke, ouais. Un enfant à la télé, depuis que tu as 15-16 ans, tu es dans l'écran, puis tout ça, puis tu n'as jamais eu une vie normale, tu as des privilèges. T'sais. Je te donne un exemple de privilège qui est bizarre. J'arrive dans un café dans le Milan, tu n'es jamais allé. J'arrive là, le propriétaire du café me voit, il dit, veux-tu que je t'offre un café? Je dis, non, on ne fait pas un café. Je viens une fois dans ton café, une fois. Je vais payer mon café, j'ai les moyens, puis je vais repartir. Ton client régulier qui vient 300 fois par année, lui, tu le gardes. Parce que lui est content. Lui a un sentiment d'appartenance. Mais moi, tu ne me payes pas le lunch. Et il y a beaucoup de gens du milieu qui sont habitués de se faire payer à la traite et trouvent ça bien normal.
Ouais.
Puis même quand ils vont dans des places, « Ah, je ne me fais pas payer bien les affaires ici. » Je te dis, « Voyons, bien, dans le monde des comptables, là,
il est payé. » Ben, c'est un rapport de. Il y a une espèce de rapport de force que je fais tout pour pas nourrir. C'était ça toute ma carrière. Tu sais, quand t'es sur scène automatiquement, t'es comme surélevé. Fait qu'il y a une espèce de. Garde, je suis au-dessus. Puis ça m'a toujours gossé parce que je veux. Dans ma vie personnelle et dans ma vie artistique, je veux pas que les gens sentent qu'ils sont en dessous, que je suis au-dessus. Je fais tout pour te faire sentir. On est égal.
Moi, je fais tout. De toute façon. Moi, ce que j'ai tout le temps aux gens derrière la caméra, c'est de dire « Hey, vous autres, vous n'avez vu des têtes enflées passer ici, hein? » Ouais. Ils sont passés devant vous autres, tu sais, puis qu'ils ne sont plus là. Tu sais, moi, il y a un gars qui travaille, crime, il a travaillé avec Michel Richard sur Garden Party, tu sais, il a tout vu, tu sais, il a vu l'UDA passer pendant 30 ans, là. Et lui, il n'y a pas rien qui l'impressionne, parce que dans le fond, il sait très bien que tu es là pour un petit temps, une petite parenthèse. Puis que tu risques d'être parti de cette industrie-là avant que lui prenne sa retraite, ou peut-être plus maintenant, mais tu comprends?
Ouais, absolument.
Puis, tout le monde, je dis. Parce que là, vous autres, vous voyez plein de monde passer devant la caméra, tu sais. Mais ils passent pas mal plus vite, puis vous autres, vous restez. Mais ça aussi, c'est un drôle de rapport de force, c'est les salaires.
Ouais.
Les revenus, c'est-à-dire, devant la caméra, des fois, tu te dis. Puis moi, en tant que comptable, c'est le réflexe que j'ai, des fois, je dis. Cette personne-là aurait accepté de faire ça pour beaucoup moins. Elle l'aurait fait quand même.
Ouais.
Quel est le juste prix? C'est sûr qu'il faut que tu sois mieux payé que dans un projet de temps partiel ou temporaire qu'un projet garanti avec un régime de retraite. Là. Ça, c'est indéniable.
Ouais.
Mais des fois, tu te dis, OK, t'as coupé la personne qui est derrière la caméra, elle a 15$ de moins là, parce que là, dans tout ton budget, il fallait que tu payes la personne de plus puis l'autre moins. Puis, c'est quand même, c'est déchirant. Là.
Ben c'est, oui. Mais le défi, c'est ça, tu l'as nommé, c'est durer. Et là, la réussite, c'est de toffer longtemps puis d'être là. Fait que c'est, à un moment donné, au début, t'es séduit par l'espèce de quête de monter puis d'être haut. Mais inévitablement, dans toutes les carrières, tu as des ups puis des downs. Puis si tu gères bien tes downs, tu apprends que ces gros ups-là n'ont pas la même valeur que tu pensais.
Non.
Puis tu finis par normaliser ça puis être beaucoup plus heureux en ayant comme une carrière. Parce que Jeff Mercier avait dit ça, puis je l'ai dit dans un podcast il n'y a pas longtemps, mais j'adore cette phrase-là. Il disait sois gentil avec les gens quand tu montes.
Parce que tu veux croiser quand tu vas redescendre.
Exactement.
Oui. C'est donc, j'allais te dire tantôt. Parce que l'autre affaire, c'est que, puis pour moi, c'est une parenthèse dans ma vie professionnelle.
Ouais.
C'est vraiment une parenthèse. C'est-à-dire, je viens d'un autre milieu, je fais un peu ça, puis dans ma tête à moi depuis le début, je vais retourner. Comprends-tu? Puis cette espèce de. C'est pas un deuil, là, mais cette espèce de. C'est drôle que je fasse ça aujourd'hui.
Ouais.
Fait que c'est juste pour moi, ça demeure drôle, anecdotique, sympathique, parce que je ne crave pas pour ça. C'est arrivé. Oui, j'ai travaillé pour ça, mais que je m'attendais pas à ça. Fait que j'ai déjà dépassé l'attente que j'avais et donc je peux plus être déçu. Tu sais, c'est pas comme les gens qui disent « Je veux ça, puis je vais aller là, puis je vais aller là, puis je vais aller là, puis j'ai un plan de carrière. » Non, moi, j'ai un plan de 12 mois. Je suis à une place. Dans le prochain 12 mois, j'ai un contrat qui se finit là. Comme là, mon contrat de radio, il se termine. Il se termine en juin. Là, j'ai une autre année. J'ai renouvelé pour une année. Fait que, okay. Ah, j'ai encore une année de radio. Mais je vois tout le temps ma carrière se terminer à mon contrat qui est le plus loin.
Ouais.
That's it. Puis je ne dis pas qu'est-ce que je vais faire après. Je dis, c'est là, pas, là. Mes attentes s'arrêtent là. Je trouve ça vraiment... Puis je me crois vraiment. Peut-être que quand ça va arriver, je vais être déçu. Je vais... Mais pour l'instant, je me crois vraiment que je pourrais arrêter du jour au lendemain puis que je vais retourner faire... Même où je vais prendre ma retraite ou peu importe.
Mm-hmm.
Je crois vraiment que je... la cassure, je vais dire hey, « je vais aller me reposer ».
Mais c'est sain, je pense. C'est une façon super... C'est sain de voir ça comme ça, je pense. Là.
Mais c'est surtout réaliste parce que c'est tellement un monde de fous que tu dis tu peux pas penser dans ta vie. Moi, je pense à ceux qui animent des shows, par exemple, plus de variété. Là. C'est des animateurs, c'est des animateurs professionnels. C'est leur carrière, ils ont étudié en communication. Là. Là, tu finis un show, puis là, tu t'en trouves un autre. Puis il y en a plein qui sont comme toi, puis là, vous battez pour les mêmes shows. Moi, il n'y a personne qui veut faire un show sur l'argent. Là. Je me bats pas contre. Je me sens pas menacé par quelqu'un d'autre. Il va y en avoir d'autres qui font d'autres choses, mais il n'y a personne qui veut ma place. Tu peux pas dire on va faire l'indice Sébastien Benoît, là, ça n'a pas rapport. Tu comprends? C'est un autre game, il est dans d'autres créneaux. C'est pour ça que si je sors de mon créneau de l'argent, c'est dangereux parce que c'est mon créneau. Comme tu dis, j'aime mieux avoir une carrière B puis t'as fait un peu plus que d'avoir un gros feu d'artifice puis d'éclater.
Oui, puis défini. Puis en terminant, vu qu'on approche du temps, parce qu'il faut qu'on arrête ça, l'humour, c'est encore quelque chose que tu aimerais essayer une fois ou deux fois?
Hey, je t'arrive, ben, j'ai fait Bijoux de famille, ça va passer. Ben là, je ne sais pas quand est-ce ton chose va te dire, mais j'ai fait ça l'année passée, puis ça va être diffusé dimanche.
OK, finalement, ça fait assez longtemps qu'on en parle.
Oui, j'ai fait le petit, mais c'est pas un show d'humour que j'ai rodé pendant, tu comprends-tu?
Ben non.
Ça, mais quand je l'ai regardé, quand je fais des conférences, je la mets la petite twist d'humour, tu sais, puis les petites règles de trois, je le fais. Fait que j'ai aimé ça, mais c'est dans un contexte pandémique où t'avais quelques personnes dans la foule distanciées. C'est pas l'énergie d'une salle collée. Deuxièmement, c'est très stressant parce que c'est à la télé. C'est OK, on part, on prend une pause, tu y vas, tu rentres, on reprend la pause. C'est plus à la TV. Tu sais, c'est comme un show d'humour, mais qui est pas rodé. C'est un peu spécial. Là. Mais j'aimais ça. J'aimerais ça faire ça. Moi, j'aimerais ça, à un moment donné, tu sais, jouer mon propre personnage. C'est-à-dire, tu m'invites dans un genre de gala, puis là, tu dis, bon, hein, tu sais, comme... Puis là, j'interviens, puis je fais une niaiserie, un genre de caméo.
Ouais.
Ça serait drôle, tu sais. Oui, ça serait drôle, tu sais.
OK.
Mais c'est pas ma valeur première, tu sais, puis c'est tellement dur, le métier que vous faites.
Ouais.
De faire ta place parmi les 100 coqs. Écoute, maintenant, quand je te faisais des cours à l'École de l'humour le soir, à une autre époque, c'était fait au moins 11 ans, tu sais, je regardais les cadres de diplômés. Là, en 89, il était, mettons, je ne sais pas moi, 10-12. L'année suivante, tu en ajoutes 10-12. Puis 10-12. Plus le monde en écriture. Là, tac, 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 tac. Donc, depuis 1989, où il y avait, genre, je pense, c'est Guy Nantel d'un premier, puis Jean-Marc Parent, puis toute cette gang-là. Ouais. Imagines-tu, ils sont encore là.
Mm-hmm.
Plus tous ceux qu'il y a eu. Puis on est plus de Québécois, mais...
Pas tant, là.
Pas 13 fois plus. Pas 14 fois plus qui ont besoin de show d'humour. Donc, l'humour a pris la place de la chanson, des places, puis du théâtre à d'autres. Ça, c'est vrai, mais hey, c'est une loterie. Hein?
Ouais, la tarte est aussi grosse, puis les pointes sont juste vraiment plus petites. Là.
Mais sauf que maintenant, on met les humoristes ailleurs. On dit que, par exemple, on les engage pour faire de la conception publicitaire. On les engage pour faire du théâtre en arrière, de la mise en scène, écrire pour la télé, écrire pour... une agence de relations publiques, écrire pour du contenu web, tu sais, donc, il y a aussi beaucoup plus de débouchés qu'à l'époque.
Ouais.
Donc, mais, faut que tu trouves ta niche, puis tu te dis, à un moment donné, ma chance passe, ça n'a pas marché comme je voulais dans ce créneau-là, est-ce qu'il y a un autre créneau où je peux y arriver, tu sais?
Moi, c'est ça que j'ai fait, j'ai diversifié mes activités au bout pendant toute ma carrière, puis c'est ça qui a fait que j'ai survécu...
Ouais, parce que des fois, tu as faim pour une affaire, puis là, toi, on t'appelle pour une autre affaire. Mais tu te dis, ah, ben ouais, tu sais. Tu sais, c'est comme là, il est plus là, il est décédé, mais c'était Dominique Lévesque, tu sais. C'est lui qui écrivait les questions de haut suivant.
Ouais.
Tu sais, le monde ne savent pas ça, c'est une machine de connaissances, mais tu vois, ça, c'est comme une comment t'appelles ça, un talent ou une aptitude qui n'est pas en lien avec ton domaine que les gens t'ont connu.
Mm-hmm.
Mais que tu as réussi à la monétiser après cette faculté-là de performer.
Absolument. Donc,
ça, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Puis le monde ne le sert pas vraiment. Mais oui, il écrivait les questions d'au suivant.
Puis c'est payant aussi, là, tu sais, monnaie. C'est parce que la scène, c'est pas nécessairement la chose la plus payante au monde. Puis les gens ne savent pas nécessairement ça.
Mais ben, écrire un show, on me dit que ça dépend. Par exemple, je te donne un exemple. Tu sais, tu as des vedettes à un moment donné qui décident de faire moins de shows parce qu'ils sont rendus là. Au lieu de faire 300, ils vont en faire 50. Mais là, tu as un contrat avec un writer qui est payé à la productivité, je sais pas trop.
Ben, ça dépend, en fait, les différents types de contrats. Tu peux être payé à la pièce, un contrat buy-out qu'on appelle. Fait qu'on va dire, j'ai écrit sur plein de trucs. Parfait. T'as tant de jokes, v'là un chèque, puis tes droits sont libérés. Ou tu peux être payé à pourcentage. Fait que t'as 8, ça a déjà été 10, mais maintenant, c'est 8% des profits, des revenus totaux qui sont alloués aux droits d'auteur. Puis les auteurs, à l'intérieur de ce 8%-là, se séparent le pourcentage par rapport au nombre de matériel qu'ils ont dans le show. Fait que ça se peut que j'aie 1%, 2% du 8%.
Après, tu fasses confiance au producteur en maudit, ça veut dire parce que là,
ouais,
il s'en va vendre les billets, les affaires. Quand c'est un partage des bénéfices, moi, j'aime pas ça. C'est, tu sais, moi, on disait des fois, t'aimerais-tu ça être coproducteur sur un show? Non. Putain, des comptables, justement.
Justement. Ouais, producteur, tout seul.
Non, plus que ça. Moi, j'aime mieux négocier un cachet. Je suis prêt à faire ce job-là pour ce cachet-là.
OK. Ouais.
Pas à gain profit.
Ouais.
Parce que si tu partages les profits, il va donner un cachet moins gros, il va un partage des profits. Mais là, les coûts qui sont attribués, ça me tente-tu d'aller enquêter ces coûts, m'obstiner avec un producteur, dire, hey, t'as amorti tel coût, t'as mis tel coût, tu sais. Uh-huh. Fait que le best, c'est que non, c'est pas.
Ben, c'est pour ça que j'ai autoproduit ma dernière tournée.
Non, oui, mais toi, t'avais dit plus que ça. C'est-tu la tournée où t'avais dit, payez-moi ce que vous voulez?
Ouais.
Ouais, ça a payé. Marché?
Ça a marché au bout. J'étais super content.
Pour le un gars qui. Assez.
Ben, ça a foulé mes salles, puis le monde ont donné en moyenne. Je pense qu'en moyenne, ça avait donné genre 17,50.
Ouais, puis moi, comme tu avais tout, j'étais pas cheap. J'avais donné plus pour pas paraître. Tu avais fait une joke
ouais.
quand
ouais,
j'étais allé
voir. Ah ouais.
Mais 17,50, c'est bon parce qu'il y a plein de monde qui aurait pu te troller comme GameStop et dire hey, on va lui donner une scène.
Mais j'étais correct avec ça. Ouais. Ça faisait partie. Moi, je voulais un modèle qui était basé sur l'honneur et sur les valeurs de hey, regarde, tu peux me fourrer. La crosse est là. Ouais. Moi, je veux juste essayer de brasser la cage de cette industrie-là et de faire les choses différemment.
Ça, c'est-tu dans toutes les places que tu étais allé que tu avais fait ça?
Pour cette tournée-là, oui. Pour moi, mon dernier show, j'avais un prix fixe.
C'est-tu au Théâtre Sainte-Catherine que tu as fait ça à Montréal?
Je n'ai fait un au Théâtre Sainte-Catherine où ce que tu es.
C'est là que j'ai été, je pense.
Ouais. Mais là, j'ai fait une autre tournée après ça qui était autoproduite, qui était à prix fixe parce que là, mes dépenses étaient.
Énorme, hein?
Je pouvais pas, tu sais, mais je m'étais bâti une audience avec le Carré de Sable avec la première tournée. Puis là, j'ai fait une captation autoproduite de ce show-là que là, j'essaie de magasiner pour au moins être break-even puis la rembourser. Mais tu sais, ultimement...
Comment tu peux vendre ça, une captation de même? Parce que, par exemple, Netflix, t'es pas assez connu, j'imagine, pour que Netflix l'accepte.
Non.
Bon, qui va t'acheter ça?
Ben là, au Québec, on a Tout.tv, on a Comédia, on a une plateforme maintenant, on a Crave, il y a Illico.
Il y aurait moyen pour toi de dire, ça m'a coûté tant en budget de production, vendre... Tu sais, payez-moi au moins ça, puis je vais vous le vendre le show.
Ouais, exactement.
OK.
Fait que c'est ça mon objectif. Là, il y a des diffuseurs qui veulent le voir. Fait que là, je suis en train de finaliser le montage, puis je vais essayer de faire une campagne de crowdfunding visionnement privé avec les Patreons puis les gens qui écoutent mes trucs pour m'aider.
Tu vas le crowdfunder avant de le vendre?
Ben, juste pour faire, pouvez-vous au moins, parce que je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup d'argent à me donner pour acheter puis le mettre sur la plateforme, puis je veux qu'il soit vu. Fait que si je peux au moins juste rembourser ce que ça m'a coûté, qui est comme des milliers de dollars.
Il faut que tu payes du monde.
Ben ouais, faut que tu loues la salle, t'as 1 500$ qui part là, faut que tu payes genre un 900$ de technicien le soir du show juste pour le show. Après ça, t'as une équipe technique, fait que c'est 4 caméramans. 4, j'avais 4 caméramans, ouais. Un preneur de son, de la colorisation, du mixage sonore, à peu près 30 heures de montage.
Fait que c'est une coupe de 1000, là.
Ouais, ouais, c'est quand même pas mal d'argent, là. Mais tu sais, c'est comme.
Tu te refais quoi?
Ben ouais, puis artistiquement, je me dis, ça va exister, ça va être figé dans le temps, puis j'aurais pas l'impression d'avoir rien fait dans ma vie. Je vais pouvoir dire, hey, j'ai fait quelque chose qui existe. Fait que c'est peut-être pas comptable, intelligent, mais je me dis, au moins. Oui. Artistiquement, je me dis, je réussis à tirer mon épingle du jeu puis à vivre mon rêve, là, tu sais.
Mais c'est comme ce que tu fais présentement, le podcast, tu sais, ça te crée une valeur. Il faut, des fois, tu crées une valeur avec de l'investissement personnel qui n'est pas monétisé tout de suite.
Ouais.
C'est l'ensemble des choses pourquoi on te connaît.
Ben, c'est ça. Je me dis, j'espère qu'à un moment donné, les gens qui écoutent ça, ils vont me voir passer et vont faire comme, ben, je vais acheter un billet pour aller le voir parce que j'aime ça l'écouter jaser avec du monde.
Mais t'es rendu à combien, là, mettons? Je suis le combien moi, aujourd'hui? Là,
toi, tu vas être 215.
215?
Ouais. 215e épisode.
C'est quand même...
Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais en même temps, la communauté que j'ai bâtie est merveilleuse. Tu sais, rendu à 215 épisodes, le monde qui n'a pas d'affaires dans le show ne sont pas là. Fait que j'en suis pas de même.
J'ai une question là-dessus, c'est que, tu sais, on voit maintenant, de ce temps-ci, on voit souvent les reprises de Mike Ward au bordel avec sa bière et deux personnes. Ouais. Après l'avoir vécu comme ça, là, de façon virtuelle.
Ouais.
C'est beaucoup plus simple pour toi d'organiser des affaires de même de façon virtuelle que chez vous, dans ton studio maison. Est-ce que tu penses qu'après la pandémie, le monde vont revouloir une formule automatiquement ou tu vas pouvoir faire un hybride?
Je sais pas, en fait. Faudrait que je leur demande. Je serais curieux. Ceux qui l'écoutent, écrivez-moi les commentaires. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis parce que je pense que je ferais un hybride. Mais tu sais, ce que ça a changé, ça, principalement, c'est que mes écoutes en audio ont vraiment, vraiment augmenté. C'est mes écoutes vidéo qui ont baissé. Parce que c'est peut-être moins intéressant pour les gens de l'écouter à cause que ça devient du Zoom et qu'ils en font à journée longue avec leur job. Fait que je comprends parfaitement ça. T'sais. Mais c'est tout ce que ça a changé. Fait que mes écoutes restent les mêmes. Ça va être vraiment. Moi, je veux juste que le monde trippe et qu'ils soient contents et leur faire un show qui les intéresse et qui les fait tripper. Fait que, ultimement, c'est eux qui vont me donner la réponse puis je vais juste suivre ce que le monde veut. Là, parce que mon but, c'est de nourrir cette belle communauté-là. Parce que, comme je disais, rendu à 215, j'ai juste le monde vraiment le fun qui écoute le show. J'ai juste le monde.
Les gars sont partis ailleurs.
Ils sont partis ailleurs, puis on fait « fuck that ». Je fais comme « c'est parfait, c'est correct ». Fait que j'ai mon noyau de gens qui aiment le show, qui aiment la vibe, qui aiment tout ça, puis qui sont aussi curieux que moi, puis qui sont le fun à interagir. Là. Les commentaires sont tout le temps super pertinents. C'est tout du monde brillant. Puis ça a comme... Puis c'est de tous les âges, de tous les milieux. J'adore ça. T'sais, j'ai du monde qui m'écrivent là, qui n'ont aucun lien entre eux. Là. Tu te dis, OK, j'ai une madame de genre 65 ans qui a découvert le show. Elle capote, elle les écoute toutes, elle trippe au bout. Puis j'ai un doute de 22 ans. Puis genre, ils n'ont rien en commun, ces deux-là, à part...
Tu es un mononcle parce que tu as plus que 30 ans.
Ouais, moi, je suis officiellement un mononcle. Puis j'ai une coupe longueuil sur laquelle je travaille très fort. Ouais.
Ben, c'est parce que ça... La pandémie, là, ça...
Ouais. Je voulais l'essayer. Mais hey, écoute, tu ne sortiais pas plus longtemps. Là, on avait une heure, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment content de t'avoir jasé.
Ça écoute, fait on fera ça. Tu viendras faire une édition spéciale
sur le balcon
de la piscine ici dehors. Là, puis,
ben oui.
Ça serait drôle, tu sais.
Avec grand plaisir, pour vrai. Aussitôt qu'on a le droit de socialiser, on ira prendre un café puis jaser de la vie puis tout ça. C'était bien le fun. Merci, Pierre-Yves.
Salut.
Bonne chance dans tout ce que tu fais. Salut. Ciao.